Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Et Ludovic Obraniak et Jonathan McCarty, et vous également sur l'application Direct Studio, sur le hashtag RMC Live. Bien entendu, on attend vos réactions après ce premier résultat de la 10e journée de Ligue 1. Lyon s'est imposé, vient de s'imposer ce soir 2-0 face à Nîmes. Les buteurs Dembélé et Memphis, buteur à la 24e et à la 90e. L'OL est provisoirement 3e au classement en attendant Nice, Marseille et Montpellier-Bordeaux. Montpellier-Bordeaux, ce sera demain. Nice-Marseille, ce sera dimanche soir.
Eh oui, bien tenu. Eh oui.
On va accueillir Jean-Luc, un supporter de Nîmes qui nous a appelé au 32-16 et qui était au Groupama Stadium ce soir pour assister à cette rencontre. Salut Jean-Luc.
Et bonsoir à tous.
Salut Jean-Luc.
Salut Jean-Luc. Bon, comment t'es Jean-Luc ce soir là?
Ouais, un peu déçu parce que bon, on passe encore à côté de quelque chose, on aurait mérité au moins le nul.
Au moins. Ça fait 8 matchs sans victoire hein, quand même pour Nîmes, ouais, qui a plus gagné depuis la deuxième journée.
Ça fait beaucoup de matchs sans but surtout. Hein.
Ouais.
Ça commence à faire long là.
Ça fait 4 matchs là, ça fait 431 minutes sans but là.
Bah c'est ça ouais. Pourtant, ça commence à faire long, il va falloir se réveiller parce que sinon on va se retrouver encore en Ligue 2.
Pourtant c'est pas faute d'essayer.
Ouais. C'est vrai que c'est pas mal dans le jeu en plus. Hein.
Mais c'est ce que je disais dans mes points, c'est qu'à un moment donné, le jeu ne doit pas tuer l'enjeu. C'est-à-dire que l'objectif principal des Ninois, je te dis, comme j'ai dit, c'est la mort dans l'âme que je dis ça, parce que moi je prône le jeu, l'offensive, j'adore ce que propose Nîmes, mais à un moment donné il faut revenir, il faut être réaliste et dire que Nîmes est un outsider finalement dans ce championnat, et l'important, c'est d'assurer le maintien. Ce club doit se pérenniser maintenant en Ligue 1.
On a vu par exemple Dijon qui a réussi à se maintenir en jouant.
Mais tu pars la fleur au fusil à tous les matchs. Peut-être que dans la dynamique qui est la leur à domicile, peut-être que mettre de la folie, mettre de l'offensive à domicile, et peut-être à l'extérieur, revenir sur des choses un peu plus raisonnées, avoir un peu plus de certitude défensive, pour justement ne pas perdre ce genre de match.
Est-ce que jouer à contre-nature, c'est pas pire des fois? Finalement, ils partent 2-0 là, et puis...
Mais je pense que
on est sur combien de matchs là?
Ça fait 8 matchs en victoire.
Voilà. Mais je pense que leur problème, c'est que c'est le manque de réalisme offensif, tout simplement. L'année dernière, pour les avoir vus beaucoup jouer, ils avaient Bozok qui mettait, ils tiraient les yeux fermés, ça rentrait dans pleine lucarne. Là, le problème, c'est qu'ils ont des situations. Ils ont les opportunités de marquer. Mais les attaquants ne sont pas réalistes du tout. Et ça fait toute la différence. Alors, est-ce que c'est parce que les attaquants qu'ils avaient n'ont pas réussi à passer le gap entre Ligue 2, Ligue 1, ou est-ce que c'est un manque de réussite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je m'inquiète pas tant que ça pour cette équipe nîmoise, parce que dans le jeu, par rapport à ce qu'ils nous proposent, par rapport aux situations qu'ils arrivent à se créer, il y a quand même un petit peu d'espoir. Alors, je pense, moi, de mon côté, que c'est une question de réussite, mais après, on verra.
Alors, Nîmes fait partie des équipes qui est juste devant la zone rouge avec 10 points. Alors, il y a Reims pour l'instant, il y a Dijon, il y a Caen, il y a Amiens. Et Monaco, même si Monaco s'impose ce week-end, ou Nantes d'ailleurs, ils seront de toute façon toujours relégables, hein, puisqu'ils ils comptent 6 points.
Ce que je veux dire, c'est que en observant le match, parfois, en situation offensive, à 30 ou 40 mètres des buts adverses, ils se retrouvent à 8 joueurs devant le ballon. C'est-à-dire qu'à chaque perte de balle, ils peuvent se retrouver en grande difficulté. Là où
il y a eu beaucoup de 52 contre 3.
Ils peuvent garder une sécurité, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire rester 5 vraiment en phase défensive et laisser Savanier, qui est vraiment le meneur de jeu, celui qui dicte le tempo, celui qui donne les passes, laisser lui se projeter vers l'avant avec les hommes de couloir et les attaquants, mais garder une sécurité. Ils sont souvent en très grand nombre devant le porteur du ballon.
Jean-Luc, il faut quand même dire que Savanier, leur absence, sa suspension, ça leur a fait beaucoup coûté. Ouais.
Jean-Luc, comment t'expliques toi le fait que justement que ça ait si bien démarré et que finalement là Nîmes ait autant de difficultés?
Bon, on est parti peut-être sur une euphorie. On a le premier match à la maison, on sort Marseille.
On t'entend mal là, Jean-Luc.
Ah ouais, parce qu'on est en train de sortir du stade, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Non, je disais, pour les matchs à la maison, on sort Marseille, 15 000 personnes, grosse ambiance, peut-être ça leur donner un peu de l'air. Bon, après, faut concrétiser maintenant, faut marquer un peu des buts, prendre un peu des points. Moi j'ai un peu peur quand même. Hein.
Tes premiers résultats te poussent à avoir cette posture. Tu joues le premier match à l'extérieur à Angers, tu mets 4 buts. Après, tu reçois Marseille, t'en mets encore.
Marseille, en mettant 3,
tu gagnes 3.
T'arrives à tenir tête au Paris Saint-Germain. Donc, il y a une espèce de posture où tu dis, l'offensive, ça nous réussit, on va aller dans ce.
Mais Ludo, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que la suspension de Savanier leur a fait beaucoup de mal. C'est le premier match qu'il pouvait rejouer ce soir, Savanier. Et je pense que lui, dans la manière dont il arrive à rééquilibrer le bloc, dans la manière dont il arrive à gérer les phases de transition, s'ils l'ont pas, c'est très compliqué.
On remercie Jean-Luc qui nous a appelé au 32-16 et on accueille Cyril, autre supporter des Crocodiles qui lui aussi d'ailleurs était au stade pour assister à ce match face à l'OL. Salut Cyril.
Salut Cyril.
Salut Cyril. Salut tout le monde, bonjour.
Bon Cyril, est-ce que tu es un peu plus optimiste que Jean-Luc toi?
Ou t'as peur toi aussi? Moi je il y a pas de souci hein. Je pense que le score de ce soir reflète pas le match qu'on a vu.
Si.
On a eu quand même le ballon dans le pied, on s'est créé des occasions. Le problème c'est que cette équipe elle est joueuse et que
mais qu'elle est plus, derrière, elle est plus réaliste. Elle est plus réaliste par rapport au début de saison.
Bah, elle est plus réaliste. Vous avez tout résumé.
Elle est moins réaliste, moins réaliste.
Elle est moins réaliste. Ouais, je pense que vous avez tout résumé. On nous a privé de Savanier pendant 5 matchs. Je pense que ça suspend.
Ça leur a fait beaucoup de mal
par rapport à la faute qu'il a fait. Et mais
exactement.
Voilà, on a. Moi, je suis confiant parce qu'on fait quand même du beau jeu. On prouve à tout le monde qu'on est capable de beaucoup de choses et quand la machine elle va se remettre en route, je pense qu'on va causer beaucoup de problèmes.
Quand tu dis la machine qui va se remettre en route, en fait, on va être clair, il y a deux actes de progression évidents pour Nîmes, c'est que Savanier se remette dans le bain. Et que
oui.
Bozok recommence à marquer comme il marquait l'année dernière.
Il se remettre dans le bain. T'as vu le match qu'il fait ce soir?
Il
fait un match extraordinaire ce soir.
Je joue pas sur le mot. Ce que je veux dire, c'est qu'il leur a manqué. Il leur a manqué et que si la série du match sans victoire est ce qu'elle est, c'est que les 5 matchs de suspension, on les a beaucoup sentis pour cette équipe de Nîmes.
Non, mais si te dis, ça fait huit matchs. Donc Savanier faisait partie.
Mais regarde les adversaires.
Ça fait 4 matchs qui marquent plus.
Regarde les adversaires, Ludo. Regarde les adversaires, Ludo, qu'ils ont affronté avec lui aussi. Là, je pense que la série, je pense que si Savanier est là, ça fait pas 8 matchs. On parle pas de 8 matchs sans victoire pour Nîmes.
Cyril.
Oui, moi je pense que on va aussi retrouver le duo Alioui-Bozok parce que Alioui était blessé.
Ah, Bozok, il est pas dans son assiette. Hein.
Quand les deux ils vont se retrouver et qu'ils vont commencer à retrouver leurs automatismes, je pense que ça va encore faire mal.
C'est pas des automatismes qu'il faut retrouver, c'est s'adapter au niveau de la Ligue 1.
Oui, aussi. Mais je pense que voilà, il y a encore du travail à faire et on apprend, hein, on découvre la Ligue 1. Nous, hein, ça fait des années qu'on n'est pas venu.
Depuis les années 90.
Voilà. On va tout faire pour y rester et voilà, on va essayer de produire du jeu. On va essayer aussi de pousser notre équipe au maximum pour pouvoir sortir de là et puis on va y arriver.
Allez.
Bon retour Cyril, attention sur la route.
Salut, hein.
Cyril. Et Jean-Luc d'ailleurs, je sais pas si vous voyagez ensemble mais faites gaffe hein les gars.
Ouais, on est tous ensemble là.
Et bah voilà, allez ça va.
Bon 1500 dans le stade.
Et bah bonne route à vous les gars, merci.
Salut les gars, et bravo d'être venu.
Ciao, salut Cyril.
Tu vois dans ce genre de match aussi, il y a l'absence de Ripart. Qui est aussi important.
Oh, exactement, Ludo, t'as tout à fait raison.
C'est quelqu'un qui est, par son énergie, par son volume de jeu, qui aurait pu peser aussi
beaucoup de personnalité dans sa ligue
nîmoise. Et bon, c'est vrai que c'est dommageable. Moi, c'est vraiment à contre-cœur que je dis ce que je viens de dire. Mais force est de constater qu'à un moment, on a besoin de ce club-là en Ligue 1. C'est un club qui est important et qui doit rester en Ligue 1.
Bah, pourquoi plus Nîmes qu'un autre?
Non, parce que
là, je me fais l'avocat du diable, mais pourquoi plus Nîmes qu'un autre?
Parce qu'il propose quelque chose.
Attends. Là, t'as Monaco-Nantes dans la charrette. Pourquoi plus Nîmes que Monaco-Nantes, par exemple?
Non, mais ce que Ludo veut dire, c'est que ils ont. Non, mais les gars,
sur les clubs qui ont l'habitude de monter, on peut dire que Nîmes t'apporte quelque chose de différent.
Ils ont un public,
une fraîcheur,
ils ont de la fraîcheur,
une ambiance,
ils ont un style de jeu.
On est tous sous le charme.
Non, mais moi, le truc du, il faut qu'il reste. De toute façon, vous savez comment ça fonctionne. Il y aura 2 relégués minimum à la fin de la saison. Bah, qui que ce soit, ça sera emmerdant, non?
Exactement.
Non, pas forcément, visiblement.
Non, je suis d'accord avec toi, mais.
Toi, tu veux que Strasbourg descende, toi qui descends.
Je dis pas que Strasbourg descende.
Attention, mon gars.
Je te dis qu'on a le droit d'avoir des
parties. À l'augmentation, là.
Moi, pour l'instant, cette équipe de Nîmes, elle m'enthousiasme, malgré le fait que pour l'instant, elle est sur une dynamique qui est pas convaincante.
Alors, attends, je vais te faire la question différemment. Choisissez 2 équipes que vous voudriez voir descendre, là. Bah, si.
Mais moi,
j'ai des parties pris. Bah, vas-y.
Mais j'ai des parties pris de dire que Nîmes, j'aime bien cette équipe.
Ok. Maintenant, t'as le parti pris. Qui, là, vous dites?
Réponds.
Toi aussi, tu vas répondre.
Ouais, bien sûr. Réponds, Ludo.
Non. Mais j'ai envie de
mettre plein de propositions qui viennent dans les
arrières. Dévaloriser les autres.
Réponds. Bah, vas-y.
Je sais pas, Paris, j'en étais sûr. Voilà, ça, c'est partisan.
Mais faut être honnête un peu.
Bah, dis-le, Strasbourg et.
Non, mais
Strasbourg, c'est qui l'ennemi de Lille?
Mais réponds, pourquoi tu veux pas répondre?
C'est qui l'ennemi de Lille? Bah, c'est non, c'est pas là.
Mais dis-le, putain,
je te dis que j'aime bien Nîmes, point, mais je vais pas dévaloriser.
Non, mais attends.
Tu sais comment on va le rappeler?
C'est pas parfait.
C'est Ludovic, Bayrou, Aubragnac.
Non mais dis-le, il y en a peut-être deux que t'aimes moins cette saison. Je te
non,
dis
c'est
pas,
pas
des clubs. Je
non,
te dis
c'est
juste,
pas ça.
Voilà, il y en a deux peut-être dans le jeu, dans tout. Non, je sais pas, non.
Non, c'est pas ça.
Ah, oh, le mec il veut pas quoi. Incroyable. C'est terrible. On va accueillir Amaury, supporter de l'OL.
Ah, il a raison. Hein.
Salut Amaury.
Bonsoir Nico. Bonsoir Jonathan. Bonsoir.
Salut
les gens.
Amaury.
Alors Amaury, deux équipes que t'aimerais voir descendre, toi. Vas-y.
Marseille et Paris.
Ah bah Marseille Santé, je pense.
Ah oui. Tiens, et puisque tu parles de Saint-Étienne, juste pour vous dire que les deux prochains matchs de Nîmes, ce sera face à Saint-Étienne, puisqu'il y a un match en championnat et un match en Coupe de la Ligue, et ensuite déplacement à Dijon. Ça, ça va être important,
ouais,
pour,
très important
pour les crocos. Bon, Amaury, qu'est-ce que t'en as pensé du match de l'OL, là, victorieux 2-0 ce soir face à Nîmes, justement?
Ah bah très 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 laborieux. Hein. Là, on a vu encore l'OL qu'on a l'habitude de voir contre les petites équipes. Donc c'est très compliqué d'essayer de bouger le bloc. On a vu encore une. Je suis pas trop d'accord avec l'analyse de Jonathan qui trouve que la victoire au final est assez logique et qu'il y a une maîtrice, parce que pour moi il y a pas vraiment
c'est
une
pas ce que j'ai dit, Amaury.
C'est ce qu'on vous.
Si c'est ce que tu veux dire. J'ai dit que c'était pas brillant, mais que ce genre de match Lyon devait être capable de le répéter face à des promus, et qu'auparavant, par rapport au début de saison, c'est le reproche qu'on leur faisait, c'est de pas arriver à maîtriser des matchs qu'ils ne dominaient pas forcément, mais dans lesquels ils prenaient les 3 points.
Ouais, mais ce que je pense, c'est qu'en gros, ce match-là, c'est moins dû à la maîtrise qu'au manque de réalisme de l'adversaire. Parce que si on regarde le match contre Nantes, en soi, avant le but qui est une frappe quand même très soudaine, qui sort de nulle part, ils n'avaient pas eu non plus un nombre incalculable d'occasions avant. Donc c'est vraiment, le problème, c'est qu'on est vraiment toujours sur le fil de rasoir. Et du coup, ça, on reste sous le coup d'une frappe comme ça, de la frappe de Savanier qui touche sur le poteau, de la tête à la fin de Bozok aussi. Enfin, on est toujours sur le fil du rasoir. Il n'y a aucune maîtrise globale, et que ce soit offensive ou on n'a vraiment toujours pas de maîtrise collective offensivement. Parce que si vous avez vu la première mi-temps, il y a la frappe.
Ça change.
Mais alors attends, moi Maury, quand je t'écoute, au final, j'ai presque l'impression d'entendre le même discours que tout à l'heure Jean-Luc, supporter de Nîmes. C'est-à-dire lui, il est un peu flippé parce qu'il se dit eux c'est un peu l'inverse, c'est dans le jeu, ils sont pas trop inquiets, mais ils ont pas de réussite. Et là, si je t'écoute, toi t'as l'air un peu flippé aussi
Nicolas,
par le jeu de ton équipe.
Bah, le problème
Nicolas,
après, c'est que Lyon, c'est pas Nîmes non plus.
Mais Amaury, écoute-moi Amaury. Nicolas Amaury,
je pense
que dans la narration de la saison de l'Olympique Lyonnais, ce genre de match est important. Tu t'en fous en fait de le gagner en prenant les 3 points, en maîtrisant
mais
de
là,
A à Z.
Ça fait un moment
mais dans la narration
contenu
de ta saison, tu t'en fous du contenu.
Ouais,
c'est
là
le genre de match où on va dans la narration de ta saison, t'as perdu tous ces matchs, t'as perdu des points en route face à des promus.
Mais là ça fait beaucoup quand même.
Et là tu prends les 3 points. C'est important.
Mais là où je suis pas d'accord, c'est que si tu dominais globalement ton sujet depuis le début de la saison, et que là ponctuellement avant un match de Ligue des Champions tu fais un match entre guillemets moyen mais que tu gagnes,
ça
me gêne pas. Comme l'a fait beaucoup l'OM d'ailleurs l'année dernière quand ils étaient en Ligue Europa, où avec un peu de fatigue ils arrivaient à faire des matchs un peu
faux. Mais c'est un autre sujet, Amaury. Là tu dénigres pour rien, mais c'est un autre sujet.
Il y a quand même une maîtrise globale, je trouve, que tu retrouves pas à Lyon. Là au début de la saison, au final on est quand même qu'à 17 points en 10 matchs.
Le problème avec Lyon, c'est que c'est les montagnes russes. Soit on s'exalte de matchs fantastiques, soit on est déçu parce qu'on est obligé de comparer par rapport à certains matchs. Pour moi, Lyon est un prétendant sérieux au podium.
À la deuxième place.
Oui, ou à la deuxième au podium, on peut dire plus généralement.
Si c'est
mais forcément, Lyon a une stature qu'ils doivent assumer, et notamment à domicile. Le but est symptomatique, c'est une passe de Marcelo de 40 mètres sur une erreur de la défense centrale nîmoise où tu trouves l'occasion. Donc ton match de ce soir, il tient à un gelon de 40 mètres sur une erreur nîmoise et sur deux trois individualités qui t'ont porté l'équipe. Moi, j'aimerais voir le collectif de Lyon un peu plus rayonner, un peu plus maîtrisé.
Je suis d'accord.
À domicile contre ce genre d'équipe.
Je peux comprendre
que dans la saison, il y a ce type de match qu'on doit gagner. Mais le mal est récurrent depuis un moment.
Je peux pas être d'accord avec toi. Le mal est récurrent depuis le début de la saison. Mais quand le mal est récurrent, ça fait 0 ou 1 point. Là, ce soir, il marque le but. À un moment, on sent que ça, ils prennent un petit peu l'eau à la fin de la première mi-temps, en début de seconde mi-temps.
Mais c'est quand Balechine, 0 ou 1 point.
Et je les ai trouvés.
Ça veut dire que tu perds 2 points par rapport à tes concurrents.
Et là, ce soir,
ça va être disputé à la fin de la saison.
Je te parle du match de ce soir, par rapport au match d'avant. Ils ouvrent la marque en étant très réaliste. Ça chauffe un petit peu. Ils sont capables de courber les chines de Neuer sur 2-3 situations qui sont relativement chaudes. et ben je trouve que c'est un progrès, et je pense que ce genre de match, même si c'est pas très beau à voir, même si ça nous enthousiasme pas, ce genre de match l'OL doit être capable de le refaire. Et pour moi, c'est un progrès par rapport à ce qu'ils ont proposé depuis le début de la saison. Attends, juste pour terminer, Amaury, juste pour terminer, je suis d'accord qu'on doit être plus exigeant avec l'Olympique Lyonnais. Ouais. On va tous être d'accord là-dessus. Mais dans la narration de la saison, ces trois points-là seront importants.
Mais je suis pas d'accord avec toi, tu peux considérer que ce genre de match arrive parfois, mais depuis le début de la saison, c'est quand même, ça fait maintenant plusieurs fois qu'on voit ce type de match, notamment à domicile.
Très vite.
Je pense que ce genre de match, on les a vus beaucoup de fois, sauf que la différence par rapport aux autres matchs, c'est qu'au moment où ça chauffait un petit peu, ils ont été capables de verrouiller derrière, que les milieux se sont beaucoup plus repliés, et qu'il y avait, même s'il y avait des situations de but pour Nîmes, et ben, je les ai trouvés quand même plus solides, Lyon.
Amaury, pour finir.
Jonathan, dans les meilleurs joueurs, tu mets quand même, si tu dois te dire les meilleurs joueurs de Lyon ce soir.
Depay.
Lopez, il va pas être
Denayer.
Bah, Lopez non plus. Si l'homme des deux meilleurs
Denayer ou Lopez.
Franchement, moi, avoir un gardien homme du match, c'est jamais bon signe, hein. Pardon, hein, mais.
Tu veux pas dire que t'as maîtrisé alors que ton gardien est pratiquement.
Mais j'ai jamais dit que t'avais maîtrisé, j'ai dit que t'avais géré. C'est différent.
Ouais, tu joues sur les mots, quoi.
Mais les mots, ils sont importants.
Ouais, mais pour moi, gérer, maîtriser, la sensibilité est différente. Non, mais ce que je veux dire, les gars, c'est que ce match-là, il a pas été avec nous. On va devoir passer à Léval. Merci, Amaury. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
On va se faire Léval dans quelques instants.
Le match a pas été maîtrisé. On est d'accord. Ça a pas été forcément un grand match de l'OL. Mais quand tu vas regarder la saison, quand tu feras le film de la saison à la fin de l'année, je pense que ce match-là comptera. C'est tout.
On accueille Floris pour faire l'évaluation de ce Lyon-Nîmes. On vous rappelle, victoire à 2-0 de l'OL, Dembélé, Memphis, buteur de ce match. Salut Floris.
Salut les gars.
Salut Floris.
Ça va Floris?
Ça va, impeccable. On a gagné, c'est l'essentiel, mais bon, laborieux. C'est le mot que vous utilisez depuis tout à l'heure, laborieux.
C'est un peu ça, ouais. Alors Floris, si t'avais un cador à nommer après cette victoire de l'OL 2-0 face à Nîmes ce soir, tu nommerais qui?
C'est compliqué d'en sortir un, mais je dirais Denayer.
Eh oui. Okay.
C'est lui quand même qui est le patron derrière. On le voit, ça fait 3 mois qu'il est là, il nous rassure et il nous a vraiment fait passer un palier en défense. Et ce match-là, si on le gagne, c'est peut-être en partie grâce à lui.
C'est grâce à lui et Lopez, ouais. Moi, je suis d'accord avec Floris, c'est Denayer.
C'est vrai que la question de ce dossier du défenseur central, d'ailleurs, cette semaine encore, Jean-Michel Aulas a reparlé de Ruben Dias en disant c'était finalement trop cher pour nous, etc. Ils sont bien démerdés hein, avec Denayer, hein, qui n'était pas le choix numéro 1 pour l'instant.
Ça faisait longtemps que Lyon le voulait. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, quand Marcelo Bielsa est arrivé à Marseille, il avait mis dans sa liste des joueurs qu'il voulait. Lyon aussi le voulait à ce moment-là. Il avait, finalement, c'était pas fait. Il avait été en Turquie, mais c'est un joueur que les deux clubs suivent depuis au moins 2-3 ans.
Tu dis Denayer aussi,
Denayer, ouais, il a fait un gros match.
Moi, je dis Memphis.
Memphis pour toi? En cas de.
Ah, je peux suivre Ludo là-dessus.
Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi, Floris? Memphis ou Denayer?
Je mets dans l'autre catégorie, Memphis.
Ok, voilà,
Denayer,
ouais,
t'es dur. Denayer.
Alors, pied carré de ce match, vous metteriez qui?
Moi, personnellement, ça m'embête de le mettre là, mais Aouar. Clairement, Aouar.
Ah ouais, carrément. Oh, t'es sévère là, t'es dur. Hein.
Non. Là, on a retrouvé le Aouar d'août. Le Aouar qu'on ne voulait pas voir. Il a quasiment tout raté, des envols sur le terrain. Je l'adore, il est énorme, il était bien revenu. Mais là, ce soir, il passait au travers.
Vous mettriez qui, vous, les gars, en pied carré? Vous pouvez mettre un Nîmois.
J'ai pas spécialement envie de le mettre, mais ouais, on peut mettre un Nîmois, c'est vrai aussi. Mais ouais. C'est vrai que j'attends plus techniquement de Dembélé.
Il a marqué ce soir, mais le premier but, c'est le plus important.
Il marque, mais dans sa capacité à garder le ballon, à faire jouer les autres, je trouve qu'il a pas mal de déchets techniques. J'attends plus de ce joueur-là. Bon, pied carré, ça résume pas.
Pied
carré, ça veut pas dire.
Je mettrais qui côté Nîmois.
Des fois, on met un mec qui rate une action, qui rate un tir.
Ouais, d'accord. Pied carré.
Okay. Donc moi, je le mets parce qu'il a raté quelques contrôles importants dans des perspectives de contre-attaque. Je pense que ce garçon, il peut faire mieux.
Côté Nîmois, tu mettrais qui, Ludo?
J'aurais mis Buenga, moi.
Ah ouais?
Ouais, j'ai trouvé en dedans ce soir.
C'est bien toi ce soir là, dis donc.
Bah ouais, mais bon.
C'est un tellement beau joueur.
Mais quand t'attends justement, quand tu trouves qu'il y a des beaux joueurs et que t'attends.
Après, il est pas toujours titulaire à Nîmes non plus, un bon gars.
Quand tu vois certaines prestations, des fois t'es plus déçu que d'autres.
On peut mettre des remplaçants.
Tu t'attends à plus.
C'est-à-dire?
Des joueurs qui sont rentrés en cours de jeu.
Ouais, éventuellement. Si vraiment
tu fais. Jordan Ferry. Je trouve que son entrée, elle est pas très positive, qu'il a perdu beaucoup de ballons, et que par rapport à ce qu'il devait apporter, je peux comprendre le changement, hein, quand Jordan Ferry rentre, mais non, Jordan Ferry.
Putain, je sais pas qui mettre, moi, les mecs, là, du coup, là, vous m'emmerdez, hein.
D'un côté, c'est dur ce soir, parce qu'il y a pas vraiment de joueur qui est passé à travers son match.
Les gars, Aouar, quand même, là, ça a été limité par rapport à
refusé. Ou c'est Aouar, jamais je le mettrais pied carré.
Moi le premier, ça m'embête énormément.
Non mais sur un match, c'est vrai qu'on peut.
Jamais je mettrai par principe Oussama Ouar Pika.
Donc on va mettre Oussama Ouar du coup.
Ça le voilà. Va.
En taulier de ce match, vous mettriez qui du coup?
Savanier.
Ah ouais, Savanier, taulier Moi je mets Lopez les gars. Voilà,
moi aussi. Non,
non. Ce soir
Lopez.
Les gars.
Non, moi je mets Savanier, il a été énorme sur ce match-là.
Vous avez tous les deux raison.
À la récupération, à l'animation, il a été brillant, brillantissime.
Vous avez tous les deux raison. Mais je vais donner raison au joueur qui est dans l'équipe qui a gagné, donc Anthony Lopez.
Tu mets qui toi, Floris?
Ah, moi je mets Memphis quand même.
D'accord. C'est vrai que Memphis figure pas alors qu'il aura fait un bon match.
Ouais, il a
fait un
bon match. On l'a pas mis en.
On l'a nommé dans les hommes du match.
Ouais, avec Lopez.
Pourquoi t'as penché pour Donaire toi sur...
Bah ouais, je trouve. Et en Casper?
Bah je sais pas, en Casper.
Eh ben en Casper ou Sam Avoir, là je suis d'accord en Casper.
Moi j'aurais mis Depré moi.
Ouais aussi.
On l'a pas vu du match le pauvre.
Depré, ouais, non, c'est
pas. Il a pas pu exister.
Oh, Bozok aussi quand il rentre.
Ouais, mais rentre, tu vois, Depré, il est là depuis le début. Là, ouais, match. Ouais. Il y a vraiment eu un match chiant pour le coup, Depré.
Moi, je mettrais Bozok, Depré, Aouar, Coexéco.
Mais qui, toi? Après, il y a Marçal qui a beaucoup de mal aussi.
Moi, je fais mon analyse surtout par rapport aux joueurs, l'attente que j'ai sur les joueurs.
Après, c'est sur un match.
Terrier, on l'a pas beaucoup vu.
Il a quand même simplifié 2-3 touches de balle par rapport à Aouar. Aouar, tu l'as vu ce soir?
Non, pas vraiment.
Et Aouar, on en attend quand même beaucoup de choses.
Mais comme les autres.
On récapitule l'évaluation en cas d'Ordonnayer, en pied carré Aouar, en taulier Lopez et en Casper, on a mis Depré. Voilà les choix faits par Jérôme Thomas aussi. Floris, merci d'avoir été avec nous.
Voilà, merci les gars.
Salut, bonne soirée, à bientôt Floris.
Allez, merci, à bientôt.
Salut, ciao. Salut. Dans quelques instants, on va ouvrir les questions de la Ligue 1. On va entendre Rudy Garcia sur Balotelli. On va entendre également Thomas Tuchel sur Cavani. On aura du Bounassar aussi qui nous parle de l'équipe de France. Il a été préconvoqué par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement. C'est ce qu'il a révélé à Florent Germain
pour 2020.
Et Simone Rovera, à tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovic Obraniak et de Jonathan Macardy. On vous rappelle que Lyon s'est imposé 2-0 ce soir face à Nîmes. Première affiche de la 10e journée de Ligue 1. On a analysé ce match ensemble avec vous au 32-16 sur l'application Direct Studio. On passe aux questions de la Ligue 1. Dimanche, 21h, Nice-Marseille. Ce sera la dernière affiche de cette 10e journée de Ligue 1. Rudy Garcia était en conférence de presse cet après-midi. C'est vrai que l'été dernier, Mario Balotelli était tout proche de l'OM. Garcia regrette-t-il ce transfert manqué? Sa réponse aujourd'hui en conférence de presse.
On n'avait pas besoin de prendre un attaquant parce que le grand attaquant de l'OM, c'est son attaque et son animation offensive. On le montre encore maintenant, les deuxièmes attaques du championnat. Après, en termes de recrutement, il y a aussi des opportunités. Et Mario est un joueur de grande classe, donc on a été près de le faire et loin de le faire, en gros.
Voilà, alors la question, Garcia a-t-il raison de ne pas regretter Mario Balotelli? On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio pour y répondre. Quelques petites stats pour vous aider peut-être à répondre à ça. Balotelli cette saison avec Nice, c'est 3 apparitions, 211 minutes, aucun but marqué. Il a plus marqué depuis le 12 mai dernier, c'est un match face à Caen. Et puis Marseille cette saison, alors pour reprendre ce que disait Rudy Garcia, on a Thauvin à 7 buts, on a Payet à 5 buts, on a Mitroglou et Germain à 3 buts, on a Ocampos à 2 buts, sans vous compter ceux qui en ont marqué un cette saison du côté de l'OM également, toutes compètes confondues aussi. Est-ce que Garcia a raison de ne pas regretter Mario Balotelli?
Totalement. Moi, je voulais que Balotelli
aille à l'Olympique de Marseille.
Avec le micro, mec.
Ouais, je disais totalement parce que moi, je voulais que Balotelli aille à l'Olympique de Marseille parce que je pensais que, tu sais, c'était un peu le mariage du feu et du feu. Que les deux auraient pu, que Balotelli avait dans l'ambiance du Vélodrome, ça aurait pu donner quelque chose. Mais quand on voit le début de saison de Balotelli à l'OGC Nice, qu'il est revenu totalement hors de forme, etc. Et surtout, quand on voit que prendre Balotelli, ça veut dire que tu te maques un petit peu avec son agent, je pense que Garcia a raison. Après, pour moi, la vraie question de l'after, c'est est-ce que Marseille ne se tire pas une balle dans le pied en faisant re-signer Garcia pour 2 ans de plus?
Ouais, mais ça c'est un autre débat pour le coup, mais ça n'a rien à voir avec Balotelli.
Pour moi, ça se rejoint parce que quand tu parles de recrutement, tu parles de Garcia, forcément.
Ouais, c'est vrai que ça joue aussi. Ouais.
Et Garcia, en fait, depuis le début, tu vois, j'ai entendu beaucoup de débats sur nos ondes où on disait, Rudy Garcia, oui, mais c'est pas de sa faute parce que Zubizarreta lui ramène pas des bons joueurs, etc. Cette saison, pour moi, Garcia, elle a pas le droit à l'erreur parce que le recrutement, c'est de A à Z Rudy Garcia. Et par rapport à ce qu'il a montré tant sur le plan du recrutement que sur le plan tactique, que sur le plan des résultats, la parenthèse enchantée de l'année dernière en Ligue des Champions où tu vas en finale, je continue d'avoir la même opinion sur cet entraîneur-là.
Ludo, ton avis, est-ce que Marseille a raison de ne pas regretter Balotelli?
Oui, je vais suivre Jonathan. Alors pas pour les arguments qu'il avance, parce que vu le début de saison de Mario Balotelli, il n'aurait pas fait le même s'il avait signé à l'OM. Il aurait été beaucoup plus impliqué. Après,
il a traîné des pieds quand même.
Je te rappelle une chose, il était suspendu les trois premiers matchs.
Oui, mais il a quand même traîné des pieds. Hein, bon, il est revenu tard, Vieira s'est énervé.
Au niveau de sa préparation, je peux te dire qu'il se serait mis au diapason de tout le monde. Après, pour bien connaître Rudy Garcia, avoir Balotelli dans son équipe, il se sera arraché les cheveux. Honnêtement, je le connais bien. C'est quelqu'un qui mise beaucoup sur le travail défensif, notamment de sa première ligne d'attaquants. Et tu peux pas avec un garçon comme ça, en plus le caractère qu'il a. Rudy, il a aussi un sacré caractère. À un moment donné.
Mais alors, il le voulait ou il le voulait pas?
Non, je pense pas. Quand il te dit, on l'a.
Bah là, voulu, il a dit, on l'a quand même essayé.
Non,
le voulait.
Mais il est vague. Il te donne plus l'infini, moins l'infini, quoi. Peut-être qu'on l'a voulu, mais on aurait pu le faire, mais on aurait pas le
faire. Nicolas Ludo, est-ce qu'on peut pas dire que Balotelli?
Tu le sens, il l'a jamais.
Non, écoutez-moi.
Il l'a jamais vraiment voulu dans ses déclarations.
Est-ce qu'on peut pas dire que Balotelli, c'était pas plutôt une volonté de Jacques-Henri Hérault?
Bah, je sais pas, enfin, la façon dont il en parle, Rudy Garcia, tu dis que ça devait quand même le saucer un peu, quand même, non?
Sauf qu'il a beaucoup défendu Kostas Mitroglou, il a beaucoup défendu Valère Germain à la fin de l'été, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il n'avait pas besoin d'avant-centre, mais que Balotelli, ça aurait été un bonus. Il a vraiment, tu vois, à la fin de l'été, t'étais en vacances, mais il a vraiment fait le taf.
Jonathan, tu connais après les dessous.
Ouais, et puis la communication.
Il y a ce qu'il y a en façade et il y a ce qu'il y a derrière.
Moi, je pense que Rudy Garcia, il aurait voulu Balotelli si ça avait été les mêmes agents que, avec lesquels il a l'habitude de travailler.
Il peut continuer la saison avec Valère Germain et Kostas Mitroglou dans le sens où Payet et Thauvin réussissent une aussi grande saison qu'ils ont faite la saison dernière. Parce que quand on commence à passer les 16e de finale de l'Europa League, qui sont les joueurs qui font les différences?
Exactement.
C'est ces deux joueurs-là. Il faut que ces deux joueurs-là performent.
De qui?
De
Payet et Thauvin. Après, la particularité de l'OM la saison dernière, on a souvent donné la statistique.
Exactement.
T'avais quasiment une demi-douzaine de joueurs faciles. T'avais claqué de plus de 10 buts sur la saison. C'est énorme.
5, Nico.
Ouais. TCC, je parle.
Juste une question, Ludo. Est-ce que, quand tu étais à Lille, est-ce que t'avais ces critiques un petit peu récurrentes aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, qui disaient que Garcia faisait vraiment venir, ses hommes? Alors ces hommes, ça peut être des joueurs qu'il avait déjà connus auparavant ou des joueurs avec lesquels il avait des affinités par agent interposé.
À l'époque, on connaissait pas trop bien ses relations avec avec ses agents. On parlait moins de ça, mais c'est vrai qu'il a fait venir quelques hommes à lui, mais plutôt à bon escient. Hein. Quand tu fais venir Gervinho, tu fais venir Tullio ou d'autres, Bacha, tu te trompes pas sur.
Et t'avais pas l'impression d'être un petit peu défavorisé par rapport à des joueurs qui étaient avec ses agents ou qui étaient dans ses petits papiers et par rapport à d'autres joueurs qui eux ne l'étaient pas.
C'était pas vraiment perspective à partir du moment où ces joueurs-là, ils te faisaient des différences pendant les matchs.
Et il te fait quand même un double. Machin le gars, donc c'est difficile de reprocher un gars.
La seule chose que je veux dire par rapport à ce sujet là, ça va être très 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 court pour une fois, c'est que cette saison Garcia a décidé de tout le mercato et qu'on lui fera moins de cadeaux que l'année dernière.
Accueillons Omar, supporter de l'OM, voir ce qu'il en pense. Salut Omar.
Salut les amis. Oh,
salut,
j'ai
Omar.
Pas reçu le t-shirt que j'ai gagné.
T'as dit quoi?
J'ai pas reçu le t-shirt.
C'est pourquoi?
C'est parce que Nico l'a gardé.
Ouais.
Ah, c'est pas beau.
Si ça avait été avec moi,
le truc qui est top maintenant Omar, c'est que tu vas voir mon odeur sur le t-shirt.
Non, garde-la, ton odeur.
Sympa le mec.
Tu savais ce qu'il a fait avec.
Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, Omar? Est-ce que Garcia, il a raison de pas regretter, Payet, finalement?
Non, Balotelli.
Ouais,
je suis pas fan de Garcia, mais il a absolument raison, parce que c'est contrairement à ce que beaucoup ont dit, notamment Dimeco, Balotelli, t'es pas fait pour jouer chez nous à l'OM.
Eric Dimeco, s'il te plaît.
Eric Dimeco, que je respecte, qui a gagné la Ligue des Champions, n'en déplaise à certains. Mmh. Bref. Donc, parce que déjà, il est fou dans sa tête. C'est un mec, il est pas fini, quoi, Balotelli. Je veux dire, il tire à la carabine au plomb, il vient du centre de formation, il mène un incendie chez lui, bon, bref.
Après, il fait d'artifice aussi.
Aussi, voilà. Autre problème plus sérieux. Il serait venu avec le plus gros salaire du club, avec un melon et un ego démesuré. Dans les vestiaires.
700 000 euros.
Il paraît que c'est un mec qui est apprécié dans le vestiaire, Omar.
Oui, dans le vestiaire, mais ça dépend lequel.
Par exemple, à Nice, c'est lui la superstar et les autres le kiffent, tu vois.
Oui, il vient à Marseille avec les.
Je sais pas, je dis ça.
Il a raison, Ludo, c'est pas pareil.
Oui, mais à Nice, il y a qui? Je veux dire, à Nice, il y a.
Cardinal, c'est son pote.
Il y a une Dante qui est à la retraite. Il y a.
Pardon, mais moi, à Marseille, qui aujourd'hui, en termes de médiatisme, de notoriété,
plus médiatisme.
Médiatisation? Non, mais qui?
Florent Thauvin, Dimitri Payet, Adil Rami, Stéphane Mandanda.
Et que vous le voulez ou non, à Marseille, on a des champions du monde, on a des joueurs de classe mondiale comme Luis Gustavo, comme Strootman, même s'il
peine. Pour l'instant, on l'a pas vu encore.
À son niveau. Oui, non, mais quand même, ça reste.
Comme Bouba Camara.
Au tour national. Et puis, je veux dire, on voit son, vous avez montré ses stats catastrophiques à Nice. Il aurait rien fait. Voilà, il aurait rien fait. Parce que c'est un mec, je pense qu'il n'était pas fait chez nous pour jouer chez nous. Il aurait pas fait les efforts défensifs parce que c'est pas dans sa mentalité. au bout de quelques matchs, comme il aurait eu des stats aussi nuls qu'il a à Nice, il aurait été sifflé par le public. Si un mec, comme il n'est pas fini dans sa tête, il aurait été capable de faire des dents d'honneur, etc., il serait très mal viré.
Voilà. Attends, juste deux remarques
Garcia,
pour Omar.
Garcia, il a ramené une sérénité dans les vestiaires. Et moi aussi, je trouve qu'il est, même Garcia, avec sa philosophie, il n'est pas compatible avec Balotelli.
Juste deux remarques. Pour moi, je pense que, à terme, et je le dis depuis des années, les gens me prennent pour un fou, mais je pense qu'au petit à petit, peut-être, je pense, pourrait avoir raison là-dessus. Je pense que le numéro 9 de l'Olympique de Marseille, il était dans l'effectif. C'est pas Valère Germain. C'est pas Kostas Mitroglou, mais c'est un autre joueur.
C'est Thauvin?
Non.
NG?
C'est Lucas Ocampos, qui jouait numéro 9 à River Plate, qui m'a marqué beaucoup de buts, qui fait 1m88.
Bon, c'est quoi le deuxième truc que tu voulais dire?
Tous les ballons de la tête et qui est très bon. Et la deuxième chose, c'est que je pense que, c'était une question pour notre auditeur, c'est de lui demander ce qu'il pensait de la prolongation de Rudy Garcia.
Pour répondre, Omar.
Non, je pense que, encore une fois, moi, je suis pas le plus grand fan, de Garcia, mais je lui enlève pas qu'il a ramené une sérénité, il a ramené petit à petit des résultats, la feuille de route est respectée, et je pense que pour continuer à progresser, bien sûr qu'il faut le garder, Garcia. Sinon, et je joue bizarre état pareil, il y en a beaucoup qui le critiquent, mais il fait un gros travail dans l'ombre. Il faut continuer.
Zubizarreta, le problème, c'est qu'il fait du travail sur la structure du club. C'est-à-dire qu'il a beaucoup structuré les relations de l'OM avec les clubs de la région, mais pas forcément sur le mercato.
Il travaille sur les jeunes.
Merci Omar de nous avoir appelé. Et ne raccroche pas. T'as gagné deux places de ciné pour aller voir le
mais
jeu.
Mais qui se reçoit pas, il t'a dit.
Avec moi. Non, il dira avec moi. Mais s'il en voudra.
Pourquoi t'as rigolé au Campo? Si je veux vraiment neuf à River.
Non, mais j'étais ok, c'est très bien.
Avec Kevin Nagui en soutien.
Tiens, Garcia qui a fait savoir que Florian Thauvin est très incertain pour dimanche, il est blessé au talon. Ouais. Et entretien à MC Sport avec Bounassar, Florent Germain qui a rencontré le latéral de l'OM, qui lui a expliqué que son rêve était de jouer pour l'équipe de France. Vous savez qu'il est éligible pour la Guinée, pour le Sénégal, et la France aussi. Il a même été préconvoqué pour les derniers rassemblements des Bleus.
Quand tu vois les prestations de Pavard, tu te dis que n'importe qui peut jouer à droite.
Demain, 17h, Paris Saint-Germain, Amiens, Thomas Tourelle était lui aussi en conférence de presse aujourd'hui. Il est revenu sur le Cacavani. Il avait sorti l'Uruguayen après l'exclusion de Kim Pembe face à l'OL avant la trêve. Et il a pris sa défense aujourd'hui. Devant les médias.
J'ai fait une décision très très dure pour lui, mais je dois faire, c'est mon job. Mais Eddie, il est top professionnel et il est un joueur super important pour PSG.
Voilà, tiens, on vous pose la question, Cavani est-il indispensable au Paris Saint-Germain? Juste le sondage qui a été lancé sur le compte Twitter de l'After, Rudy Garcia a-t-il raison de ne pas regretter Mario Balotelli? Vous avez répondu oui à 69%. On vous pose la question, Cavani est-il indispensable au Paris Saint-Germain?
C'est sérieux cette question?
Oui, c'est sérieux, pourquoi? Si t'es pas content, tu viens travailler avec nous quand
non,
on fait conduire.
Non, mais c'est pas sérieux. C'est le meilleur joueur du PSG. C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani. Faut arrêter les bêtises.
C'est le meilleur buteur. C'est peut-être pas le meilleur joueur.
Mais c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Écoute, c'est lui qui les porte depuis des années. C'est lui qui fait la différence quand l'équipe plombe. Non, je suis désolé. C'est pas parce qu'il y a deux joueurs qui sont extrêmement coruscants comme Neymar et Mbappé qui, c'est vrai, ces derniers temps brillent beaucoup. Mais Cavani, on verra en Ligue des Champions. On verra si t'es pas content de l'avoir devant.
Ça m'énerve. Non, mais disons qu'il y a eu débat après le fait qu'il soit sorti lors de
ce match. Il y avait débat où à chez les Footix.
Il en a parlé en conférence.
Il est sorti parce qu'il y a un problème de profil, c'est tout. Voilà. C'est une question de profil, mais ça veut pas dire que Cavani c'est pas le meilleur joueur du PSG, c'est pas le joueur le plus important du PSG.
Ludo.
Non, c'est surtout une question de contexte. Cavani est actuellement le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, ce n'est pas rien. Le travail défensif qu'il fait, ce n'est pas rien.
Le caractère qu'il apporte à l'équipe, surtout.
C'est un joueur qui est incontestable et incontesté, je pense. Après, on est quand même en droit, quand on voit le match et la configuration de l'équipe sans lui, de quand même se poser à la fin du match la question. Moi, j'adore ce joueur, je suis pro Cavani, mais j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question à la fin du match, de me dire... Au final, les deux se cherchent tout le temps, les deux autres, là, ils se cherchent constamment. Et lui, il est souvent oublié, et j'ai peur qu'à un moment.
Eh ben, on verra en Ligue des Champions s'il continue à jouer à la baballe tous les deux.
On verra. L'autre question qui commence à se poser.
Je suis pas affirmatif à 100%.
Et dans les bureaux des.
C'est juste que j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question.
Et l'autre question qui se pose aussi chez les dirigeants du Paris Saint-Germain, il est sous contrat jusqu'en 2020, Edinson Cavani. Il a déjà un certain âge, il y a la question de sa prolongation de contrat également.
Eh ben, je vais te répondre très simplement.
Vas-y.
C'est que pour l'image du club, pour ce club qui, aux yeux de beaucoup de gens, gens est un petit peu désincarné, un peu décharné, qui est un petit peu l'image du club de l'argent. Tu gardes ton symbole qui te relie un petit peu à ce que les footy, enfin ce qu'on appelle un petit peu le football vrai, le football du peuple. Le joueur qui t'a marqué une palanquée de buts, qui a toujours été là, qui t'a jamais déçu dans les campagnes de Ligue des Champions, et tu le prolonges. Après surtout moi, pour Cavani, je vais rien dire et j'ai juste attendre les échéances du printemps.
Mais tu sais que parce moi, je suis printemps, moi je le
on verra
Cavani.
Qui
moi je
au le kiffe, printemps, mais... on verra qui sont les hommes. C'est au printemps qu'on voit qui sont les hommes et on verra que Cavani c'est le meilleur. Oui, c'est au printemps que tu vois qui sont les vrais hommes. Ah, qui c'est qui est, voilà. Et on verra que Cavani c'est le meilleur joueur du PSG.
Ah, mais au printemps. T'as une vision qui est plutôt utopiste quand même, tu vois. C'est...
Bah non, c'est prouvé sur l'expérience, c'est mais prouvé non, sur les 5 dernières années.
Je vois ce que tu veux dire, je partage cette analyse sur l'ADN du club, le symbole. Est-ce que tu crois, par rapport à ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain ces dernières années, par rapport à l'image symbole du club, qui doit avoir justement, qui doit refléter, est-ce que tu trouves que c'est leur priorité?
Eh ben alors, prends l'autre argument. Et je te dis que sur les dernières années, au printemps, c'est-à-dire au moment où tu vois qui sont les vrais hommes dans les clubs, Cavani, ça a été le seul joueur qui a répondu présent.
Je ne remets pas en cause, je te dis, il est incontestable et incontesté.
Allez, stop les gars.
Ah, voilà, je te dis juste que les gars, les priorités des Qataris, c'est l'efficacité. C'est pas le symbole Paris Saint-Germain.
Quelques petites infos sur le Paris Saint-Germain également. Lyonnais, le président du Bayern, qui s'est exprimé sur la vente de Bernat au Paris Saint-Germain. Déclat très fort hein, de Lyonnais. Quand nous avons rencontré Séville en Ligue des Champions, il parle de la saison dernière, nous avons failli être éliminés et Bernat était le seul responsable. Ce jour-là, nous avons décidé de le vendre. Notre bonheur, notre malheur ne dépend pas de Juan Bernat. Nous avons toujours une équipe de 16 ou 17 joueurs de classe mondiale. Il l'a démonté. Pas mal de rumeurs ces derniers jours laissaient entendre une séparation entre Neymar et Bruna Marquezine, qui est une méga star au Brésil elle aussi. C'est terminé, a-t-elle déclaré à la revue Vogue. La décision vient de lui. Bruna qui a tenu à indiquer, je tenais à préciser qu'il n'y a pas de désaccord politique. Savoir que l'actrice s'est jouée en mouvement anti-Bolsonaro, alors que Neymar, même s'il n'a pas fait de déclaration publique, il a liké des publications du candidat d'extrême droite qui est d'ailleurs qualifié pour le second tour. Dimanche 17h, Saint-Etienne face à Rennes. Hier, alors Mathieu Suc de Mediapart était notre invité, il nous a expliqué alors l'affaire à laquelle Benzema serait selon Mediapart mêlé. Jean-Louis Gasset a aujourd'hui pris la défense de l'ancien Lyonnais en conférence de presse. Écoutez-le.
À chaque instant.
Benzema. J'hallucine quand je vois les choses contre Karim. Je vous garantis, je le connais personnellement, je l'ai eu 2 ans en équipe de France, c'est quelqu'un de très bien. Voilà. Il mérite le respect, il joue au Real Madrid, je joue dans un des plus grands clubs du monde, il marque des tonnes de buts, et dès qu'il y a une affaire qui sort, il est au milieu. C'est incroyable.
Voilà, c'était la réaction de Jean-Louis Gasset, qui était l'adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et qui avait côtoyé Karim Benzema. Dans quelques instants, on sera avec Fred Hermel et Simulé, on verra, parce qu'il y a des belles affiches qui nous attendent ce week-end en Espagne et en Italie. À tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ludovico Bragnac et Jonathan Macardi, ils sont avec nous également, ils nous ont rejoints. Fred Hermel est là, bonsoir Fredo.
Hola chicos.
Salut Fred.
Et
ça va? Ça va le Lillois?
Ça va et toi mon enfant?
Bah ça va. On a un match important lundi, hein. On est troisième là pour l'instant.
Ça monte cette saison.
Simone Rovera également est avec nous, l'un des trichoros du Piccolo Gazzone, bien entendu. Ça va Simone?
Ciao. Voilà, c'est la bonne star.
Alors, comment il va le nouveau pote à Cristiano?
Ouais, il va bien, il est tranquille, c'est l'homme plus heureux du monde.
Il compagno di Cristiano Ronaldo.
Ouais.
Ma che vamo a parlare della Liga Spagnola. Allora, on va commencer par la Liga.
La migliore del mondo.
Sì, ma che bella. Ma che bella la Liga Spagnola, no?
Ma finalmente.
La più bella del mondo.
La più bella del mondo, ma per
allora,
me.
Allora, Fredo domani.
Sapere che è leader della Liga?
Vittoria.
Bene, hasta pronto. Je sais pas ce que je veux dire là. Demain il y a un super match à 20h45. Il y a Barça-Séville, Monfredo. Séville qui est en tête avec un point d'avance.
Non.
Comment ça
non? C'est plus Séville. C'est Alavés le leader depuis le match de ce soir.
Ah putain, il y avait un match ce soir face au Celta.
Ils viennent de. Non mais c'est génial parce que là c'est.
Mais attends,
Alavés
c'est leader de Liga là.
Ben Alavés, Vitoria. Voilà, le club de de Vitoria, la capitale.
La Liga Espagnola, mec, t'as pas compris ou quoi?
Ben ouais, la Liga la plus compétitive du monde.
Attends, mais Alavés,
la
Liga Espagnola. Si il y a la en tête, c'est la plus belle du monde.
Voilà, Alavés, ils viennent de gagner à Vigo.
C'est la plus compétitive. Bon, il y a une déclination pour chaque leader de la Liga.
Bon Dieu, ils ont gagné 1-0 face au Celta ce soir,
exactement. Non, mais vous savez ce qui s'est passé? Alors, il y a un type qui est très décrié en Espagne et à l'étranger, il s'appelle Javier Tebas. Mais ce mec-là, ce qu'il a fait depuis quelques années, c'est exceptionnel. Notamment avec bien aidés par l'ancien gouvernement conservateur de Mariano Rajoy, ils ont fait deux choses. Ils ont fait déjà une DNCG ultra sévère qui a nettoyé les dettes des clubs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les clubs sont obligés, de par la loi, hein, c'est de la loi espagnole, hein, c'est plus qu'une décision sportive, c'est une loi, et avec le contrôle de la Liga, d'être sain financièrement. Donc,
c'est dans la loi ou dans la constitution financière?
Comment?
C'est dans la loi ou dans la constitution financière?
Non, dans la loi. Du pays.
Ok, donc c'est vraiment très sérieux.
Mais ouais, c'est très sérieux. C'est-à-dire que c'est pas simplement une décision.
Et c'est quoi, Fredo? On a pas beaucoup de temps. Garde-toi
non,
ça.
Non, mais garde-toi ça pour la vie,
sinon ça peut être pas mal. Ça.
Mais non, mais là, on a plein de trucs. Non, mais terminons rapidement par rapport à ça. Et l'autre, c'est la mutualisation des droits.
Ouais.
Donc aujourd'hui, il y a moins de
les voisins portugais feraient bien de s'en inspirer.
Mais voilà. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les gros clubs ont beaucoup plus de mal. Et aujourd'hui, Alavés est devant Séville, qui est devant le Barça, qui est devant le Real.
Alors parle-nous de ce Barça-Séville justement, s'il te plaît.
C'est un super match. C'est un super match parce que alors il y a quand même une aide pour Séville, c'est que Séville ne joue plus la Ligue des Champions, joue la Ligue Europa et quoi qu'on en dise, c'est quand même pas la même exigence. Et donc je pense
c'est
que
moins Séville, de concentration nerveuse pendant la semaine.
Ouais, puis il y a un vrai coup à jouer pour cette équipe de Séville parce que c'est vrai que ça marche bien. La greffe de cet entraîneur dont on avait parlé un lundi soir déjà qui est Pablo Machín, l'ancien entraîneur. Ben ouais, tactiquement il est très fort, etc. Et l'ancien entraîneur de Gérone, donc ça commence à bien fonctionner. Un type qui avait du mal au début de saison, but sur but, c'est Ben Yedder. Donc voilà, tout va bien, tout va bien.
Benega est pas mal aussi, non, encore.
Ben Benega, c'est un joueur extraordinaire.
Benega, j'ai vu jouer 3 fois cette saison, j'ai l'impression que c'était un récital, quoi.
Mais oui, mais c'est un récital de milieu de terrain technique comme on les aime, voilà.
En revanche, pour le Barça, ça va moins bien, hein. 4 matchs en victoire en Liga pour le Barcelone, Fredo.
Oui, même si en Ligue des Champions,
ouais, c'est mieux,
ça passe très bien. Bah, 2 victoires, dont une à Wembley contre Tottenham. C'est une équipe qui aujourd'hui a pas mal de doutes, notamment défensifs, parce que Piqué. Alors vous savez qu'il y a encore une histoire Piqué cette semaine, parce que Piqué est allé en Chine.
Encore.
Et pour toutes ces histoires, tous ces business, donc entre la Chine, entre la présentation à Madrid du nouveau format de la Coupe Davis, etc., qui va d'ailleurs se jouer dans la capitale espagnole. Voilà, les dirigeants lui ont encore fait remarquer qu'il n'était pas très présent, quoi. Voilà.
Il est pas bon, tout simplement, en plus.
Mais il est pas bon, mais parce que je pense sincèrement, et je pense que Ludo pourrait nous le dire, quand t'es footballeur de très haut niveau, tu dois être là-dessus, quoi. Tu peux pas avoir d'autres activités.
Il y a pas de secret.
Tu peux avoir des activités ludiques.
Il y a pas de secret.
Tu peux pas aller en Chine. T'as 2 jours de vacances parce que t'es plus international et parce qu'il y a une trêve. T'as ou 2-3 jours, aller en Chine, même en business, même en première.
Mais
je suis désolé. Fred, c'est crevant.
La question, c'est est-ce que Piqué a toujours envie d'être un joueur de foot professionnel?
Sur le terrain, ça se voit pas.
Un petit mot sur le Real aussi, Fredo, qui jouera à 13h face à Levante. Alors, ils sont seulement à 2 points finalement, les Madrilènes. Ouais. Alors, cela dit, Lopetegui, il peut battre un record. Si le Real ne marque pas avant la 55e minute de jeu face à Levante, je crois.
Voilà, ça peut être un record de l'histoire du Real. Déjà, il faut remonter à je sais plus combien d'années.
Ça ferait 464 minutes, ouais, sans marquer de but.
Remonter à 1985 pour voir le Real ne pas marquer dans 4 matchs consécutifs, donc ce qui est dans 3 matchs consécutifs, c'est ce qu'on vient de vivre. Franchement, il est au bord du gouffre, Lopetegui. J'étais à la conf, bien entendu, comme toujours aujourd'hui. Moi, je le connais très bien. Et là, il avait des grosses cernes. Il était un peu perdu. Les questions, quasiment 90% des questions étaient sur son avenir.
Ouais.
Sauf moi je lui ai posé une question sur Benzema, bien entendu. Il faut bien, comment dire l'espagnol, cada loco con su tema, chaque fou avec son thème de prédilection.
Et
ce qui s'est passé, c'est que voilà, toutes les questions là-dessus. Et vous sentez-vous soutenu? La voix basse, avec très peu de conviction, a dit oui, bien sûr, je suis tranquille, je suis soutenu par mon club. Mon œil, il sait très bien qu'il a failli être viré il y a 15 jours après la défaite à Vitoria. Et que aujourd'hui, Lopetegui a une semaine de folie. Levante, demain matin, enfin demain à 13h. Le Vitoria Pilsen, mardi en Ligue des Champions.
Ça devrait aller,
mais sauf que c'est pas ça.
Pas vu la situation, il y a rien qui est sûr. Ouais.
C'est-à-dire que t'es obligé de gagner, de bien gagner. C'est-à-dire que demain, si au bout d'une demi-heure, ça fait pas au moins 1 ou 2-0 pour le Real, ça va siffler dans le public.
Ouais,
et puis,
bien sûr.
Dimanche prochain, il y a quoi? Il y a le Barça au Camp.
Exactement.
Donc voilà. Donc après, je termine là-dessus et je passe la balle à mon ami Simonet. Si il arrive à dépasser cette semaine de tous les dangers, il en sortira renforcé. Sauf qu'aujourd'hui, il a quand même une grande chance.
C'est une grosse semaine, Fred, alors.
Alors, Simone, 9e journée de Serie A également, qui commence demain au Udinese-Napoli. Dernier match pour Carlo Ancelotti avant son retour à Paris en Ligue des Champions.
Eh oui.
Oui, c'est un match quand même très important pour Carlo Ancelotti, qui fait un peu des tournois verts, laisse ça répondre Insigné, laisse ça répondre Ounas, mais c'est pas un titulaire, mais quand même, c'est une alternative à
remplacer Ounas. C'est un remplaçant.
Il commence à faire son trou, Ounas, là-bas.
Il commence à faire quelque chose d'intéressant.
C'est le chouchou du public, même.
Il est bon, il est,
oui. Oui, bah oui, chouchou,
mais les vrais chouchous, bah, Insigné, c'est...
Non, mais c'est un peu le joueur pressant du public, Ounas.
Oui, oui. Et donc, c'est très intéressant pour Carlo Ancelotti, ces matchs, parce que il a une vraie, c'est un match hyper compliqué, quand même, face à l'Udinese, qui a des joueurs très intéressants à ce début de saison. Depaul, qui était sélectionné avec l'Argentine, Lasagna, qu'on a vu avec l'équipe italienne. Donc, c'est un peu une équipe, qui est pas simple à jouer, cette Udinese. Mais pour Napoli, il faut pas perdre des points. La Juve continue à enchaîner. Il va avoir un match plutôt simple à domicile face au Genoa, qui a les meilleurs buteurs de la Serie A, mais c'est pas dans un moment extraordinaire. Il vient de changer d'entraîneur, même si la situation globale est bonne, on peut dire, au niveau des points au classement. Les Genois à l'intérieur, entre président, dirigeant et joueur, ça passe pas très bien. Donc, Naples ne peut pas rater les matchs face à l'Udinese demain soir. Parce que la Juve a vraiment un match.
Ils sont déjà à 6 points quand même de la Juve. Hein.
Ils sont à 6 points. Allegri et Ancelotti disent oui, mais 6 points, c'est seulement les deux pensent la même chose. C'est que la confrontation directe qui a fait cette différence. Mais en vrai, on voit qu'il y a quand même un gap.
Dans la sécurité dans le jeu, c'est beaucoup quand tu vois les deux équipes jouer.
Dimanche, il y a le derby également de Milan entre l'Inter et l'AC Milan. 4 points d'avance pour l'Inter. La question, c'est qui a le plus de pression finalement dans ce match?
Selon moi, Milan, mais je suis sûr, 100% Milan, parce que l'Inter, oui, il y a les derbies, mais pour une fois, j'ai dit, c'est pas les matchs plus importants. Il y a Barça qui arrive derrière. Spalletti, pour l'instant, ce qu'il a essayé dans ses jours, même s'il a eu quelques joueurs qui rentraient tard de la sélection, c'est une Inter très similaire à l'once titulaire, sauf il y a un débat, un duel entre Vorsalico et D'Ambrosio sur les côtés droits, mais Icardi, Perisic, Nainggolan, Brozovic devraient être tout titulaire. Vecino est rentré blessé de l'Uruguay, donc de la sélection uruguayenne, donc
et ça sera pour un petit bout de temps, je pense.
Plus jouer, ouais, ça devrait être Gagliardini qui n'est pas dans la liste UEFA, donc il joue en championnat et devrait avoir une autre option en Ligue des Champion, mais c'est vrai que l'Inter meilleur en championnat à niveau des jeux, non meilleur des jeux non, mais à niveau de résultats et à niveau de d'engagement, Milan quand même n'a pas la Ligue, oui il y a la Ligue Europa, mais c'est derby pour Gattuso, c'est très important parce que ça peut donner un virage à sa saison.
Et demain, il y a Juve Genoa à 18h. Alors, on parle beaucoup de la Juve en ce moment en Italie, mais c'est pas forcément pour des choses qui se passent sur le terrain. Il y a encore une affaire, une possible affaire autour de la Juve.
Alors, l'affaire, c'est classé selon la justice ordinaire sur deux niveaux sur trois. Donc, on va voir les troisièmes grès du jugement, qu'est-ce que va dire. Ça va quand même considérer que la Juve est dehors de toutes les affaires. C'est quand même une affaire dont on a déjà parlé. C'est l'affaire Alto Piemonte. La criminalité dans le nord d'Italie qui est arrivée à mettre la main même sur la vente et la revente des billets de la Juve. Et lundi soir, il y aura un épisode très intéressant, au moins c'est vendu comme ça, d'une émission d'investigation en Italie de la chaîne Rai 3, qui devrait apporter des nouveaux thèmes à cette enquête, surtout sur la mort, un suicide de l'homme qui gérait la relation entre le club et les supporters. Donc, on en parle beaucoup en Italie de la Juve, surtout en ce moment.
Merci Simone, merci Fredo.
Une seconde, parce que j'ai promis d'en parler. Malcolm, ça va pas du tout au Barça. Il n'est pas convoqué pour le match de demain et il va sûrement être vendu au mois de janvier.
Mais c'était un peu prévisible, ça, Fredo, non?
Voilà.
Quand tu l'as vu jouer en France, c'était prévisible, non?
On en reparlera lundi, bien entendu. Merci beaucoup, Fred.
Adios.
Merci Simone. Merci Ludo. Merci Jonathan Macardi.
Merci Nicolas Villas.
Technique et éditorial. Et nous, on vous dit, à demain! Allez, à demain.
RFC Football Show. L'After Foot.